Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. Réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Cédric Châtelus. Aujourd'hui, nous allons parler des puissances spirituelles du féminin. Avec trois invités, Béatrice Bonin, bonjour.
Bonjour.
Kiran Vias, bonjour.
Bonjour.
Et Martine de Pongadet, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Lélie, je vous laisse présenter nos invités.
Oui, alors moi je vais dire, contrairement à la coutume, je vais dire bonjour à toutes, puisque aujourd'hui on va peut-être parler de ces puissances du féminin et pour une fois on va faire que le féminin l'emporte sur le masculin. Donc bien que nous soyons en compagnie de deux messieurs, je vais dire bonjour à toutes. Béatrice Bonin, vous êtes fondatrice de l'œuvre pour l'enfance handicapée, Ituria, ça veut dire la source en langue basque. Et en 2010, dans la suite logique de vos combats, vous avez fondé et vous organisez maintenant chaque année le Symposium international de la recherche d'avant-garde et des synergies, événement caritatif pour l'enfance handicapée, dont la quatrième édition a lieu donc les 21, 22, 23 novembre 2014 à venir à Biarritz. Il y a quelques semaines, vous avez aussi été nommé membre et responsable de commission au Global Energy Parliament à Genève et vous avez soumis une proposition de loi pour les enfants handicapés et pour la paix dans le monde qui sera soumise à l'Organisation des Nations Unies. Nous allons voir au cours de cette émission quel rapport il y a entre cela et le féminin. Martine de Pongadet, vous êtes médecin, vous pratiquez l'acupuncture depuis 25 ans et puis vous avez été aussi initiée dès 1989 au Qigong que vous transmettez désormais dans le parc Monceau.
Uniquement réservé aux femmes.
Uniquement réservé aux
femmes. Je souhaitais y participer, mais elle m'a dit non.
Voilà, messieurs les auditeurs, vous ne pourrez pas, pour une fois, quelque chose qui est réservé aux femmes. Quant à Kiran Vias, vous êtes thérapeute ayurvédique, directeur et fondateur des centres Tapovan et un des pionniers en fait, de la médecine ayurvédique en France. Vous êtes conférencier, auteur de nombreux ouvrages que j'ai pratiqués et que donc je peux tout à fait recommander. Par exemple, votre livre sur tout simplement les recettes végétariennes de l'Inde selon l'Ayurveda, le yoga des yeux, les massages pour bébés, guérir par la médecine ayurvédique, la science des marmas et je n'en cite que quelques-uns. Et dans tous vos ouvrages, dans toute votre démarche, ce qui est frappant, c'est que vous montrez le lien intime entre le bien-être physique et l'épanouissement spirituel. En somme, vous êtes un exemple vivant des racines du ciel.
C'est gentil. Merci beaucoup, Lélie.
On va commencer avec vous, si vous voulez bien, Béatrice Bonin, puisque on a fait cette émission un peu en lien avec le symposium que vous allez organiser. On en parlera concrètement tout à l'heure dans l'agenda avec Marie Dalquier. Dites-nous le choix de ce thème du féminin et de ce nom que vous avez voulu donner à l'émission, ces puissances spirituelles du féminin.
Eh bien, d'abord, le choix du thème pour notre symposium, pour notre quatrième édition, en fait, est venu tout naturellement à l'esprit de l'ensemble de mes fidèles conférenciers l'an passé. Et je dirais que ça se résume très bien avec une phrase dite par Guy Corneau lors d'un reportage sur ce symposium. Je le cite, ces mots, « Je pense que le monde a besoin d'une resacralisation et cela doit passer par le féminin ». Je pense que ça résume tout à fait ce que tout à chacun nous ressentons dans le monde actuel. Nous avons besoin d'une resacralisation. Et c'est vrai que les femmes ont toujours été porteuses du fameux féminin sacré et sont d'autant plus responsables de cette nouvelle ère féminine qui est nécessaire au monde, je pense. D'où le choix de ce symposium sur le thème féminin sacré et femmes d'avenir, qui veut à la fois faire un pont entre les traditions sur le féminin sacré, quelles qu'elles soient, quelle que soit la religion, quelles que soient les obédiences, et les femmes d'aujourd'hui qui sont porteuses de l'avenir et qui œuvrent pour cet avenir.
Alors vous occupez particulièrement, vous, de personnes handicapées, avec un handicap. Quel lien vous feriez entre ces deux thèmes ?
Je dirais que le lien essentiel fait référence à la personne que nous avons surnommée dans notre œuvre le Big Boss. C'est une petite jeune fille de 18 ans qui, du haut de son fauteuil roulant, par sa grande puissance spirituelle, a réussi dans 4 ans à développer un symposium international, à attirer des grands noms de la recherche, des philosophes, des personnes, des arts et des lettres, pour créer un événement à la fois caritatif et à la fois utile pour répondre aux soucis de tout un chacun. Que fais-je avec ma fragilité? Que vais-je faire avec mon handicap?
C'est le mot que j'avais envie de prononcer, le mot fragilité, puisque j'ai l'impression qu'effectivement, ce mot-là est banni dans le monde masculin, dans le monde machiste, dans le monde des sociétés patriarcales. On fuit la fragilité, il faut montrer la force, la puissance. Peut-être que les femmes n'ont pas peur de la fragilité, au contraire, savent montrer comment de la fragilité peut naître de l'amour, du lien, des choses beaucoup plus essentielles pour notre monde.
Je pense qu'effectivement, toute femme a en fait transformé ses fragilités en force, certes parfois plus discrètement, mais de façon, pour en revenir au titre, par le biais de la spiritualité, de façon particulièrement puissante.
Alors, Kiran Vyas, je vous voyais acquiescer sur ce qu'on disait sur la fragilité.
C'est tout à fait vrai qu'il y a une grande fragilité, on va dire, chez des femmes. Mais selon moi, ce n'est pas vraiment la fragilité. En réalité, c'est une forme d'une grande force. Et c'est une forme aussi d'une grande sensibilité. C'est-à-dire un instrument sensible et certainement fragile. C'est-à-dire, ce n'est pas un marteau-piqueur qui va faire de bruit, mais qui a une grande, grande sensibilité. Et tout à l'heure, quand on a parlé des hommes, moi, je pense qu'ils sont beaucoup plus fragiles. Et pour cacher leur fragilité aussi, ils montrent une certaine force physique qui est une brutalité, qui est aussi le non-sens même de sa propre identité.
Est-ce que vous pensez que c'est l'indianité qui vous donne cette idée-là ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut penser, on peut dire que dans la culture indienne, cette part féminine de fragilité est quand même beaucoup plus mise en valeur que dans nos sociétés occidentales ?
Quelque part, je dirais oui. Parce qu'en Inde, le concept de Shakti, l'énergie, c'est la femme. Le concept de la créatrice, au départ, on va dire Adi Shakti, c'est-à-dire l'énergie créatrice qui était là même avant le commencement, avant même le monde soit créé. Et cette créativité qui s'est transformée quelque part dans la procréation aussi, mais l'Inde a toujours donné une grande importance à cette énergie féminine, à cette créativité. Et bien sûr, c'est chez les hommes, chez les femmes, mais je suis tout à fait d'accord avec vous.
Et paradoxalement, l'Inde, qui effectivement, philosophiquement, a toujours insisté sur la dimension féminine, à travers la Shakti, est quand même un pays qui reste encore très marqué par une tradition patriarcale où les femmes sont plutôt encore opprimées dans beaucoup. On voit constamment encore des grandes difficultés, des grandes souffrances des femmes. Comment vous expliquez ce paradoxe entre, d'un côté, moi ça m'a toujours frappé, quand je suis passionné de spiritualité hindoue, je trouve que c'est un des plus grands sommets de la spiritualité
tout
mondiale, et la société, ça ne s'incarne pas dans la vie sociale.
Quelque part c'est vrai, mais c'est une partie de l'image qu'on voit de l'Inde. Mais en même temps, dans chaque foyer indien, chaque femme, elle est la reine, elle est aussi la maîtresse de la maison. Même le jour même de mariage, on lui donne la clé de la maison, la clé de tout. Et c'est elle qui détient les vraies clés, pas seulement du foyer, mais de la maison. C'est elle qui détient aussi la capacité de donner tout d'abord une éducation, donner une sensibilité, donner aussi comme maman, comme mère, des enfants, un job pas seulement de 35 heures, mais plus que 48 heures par 24 heures. Et c'est elle qui a cette grande, grande possibilité d'incarner la spiritualité. C'est vrai aujourd'hui en Inde, et je dirais avec tout respect pour tous les autres pays, que c'est un peu pareil dans tous les autres pays aussi. Mais des fois, ça se voit un peu plus en Inde. Et ça se voit moins l'importance du féminin donnée en Inde. C'est vrai que Shakti, la déesse, est dans le cœur de chaque être humain. Mais en même temps, dans les grandes villes, dans des bidonvilles, il y a toute une autre affaire qui se fait. Et l'Inde, qui est dans l'effervescence d'un côté politique, mais qui est aussi l'effervescence économique, et l'effervescence aussi par rapport à son contact avec l'Occident. Et dans ce sens-là, l'Inde d'un côté très moderne avec informatique, et l'Inde très ancienne avec ses valeurs anciennes. Moi, par exemple, j'avais peur il y a quelques années que les femmes indiennes vont se porter que des jeans et vont oublier leur sari et de plein de belles couleurs. Mais heureusement que ça ne s'est pas passé. Et de même, dans le cœur même de chaque Indien, dans le cœur même de chaque Indienne, il y a cette aspiration. Par exemple, l'autre jour, quand j'étais en Inde, j'ai vu une jeune femme qui n'avait pas beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qu'elle a fait? J'étais en train de réfléchir. Elle a simplement acheté une petite guirlande de jasmin. Elle l'a mis dans ses cheveux. Et puis après, elle est allée au temple prier. C'est-à-dire, il y a deux aspects qui m'ont bouleversé. Un côté, la beauté avec le parfum de jasmin, une certaine pureté, et en même temps le divin, la divinité, dans son cœur qui était tellement omniprésente qu'elle a parlé de ça à son propre cœur et par sa propre expérience qu'elle a envie de rayonner cette sorte d'atmosphère.
Je vous entends tout à fait. En même temps, bien sûr, on espère que l'Inde arrivera aussi à faire respecter par le droit un certain nombre de femmes qui sont victimes de violences absolument odieuses et de coutumes ancestrales qui perdurent.
Et notre premier ministre indien, le nouveau, il est très très conscient de cet aspect-là.
De ces problèmes.
Ouais. Et il est tout à fait dans cette direction.
Alors maintenant, Martine de Pongadet, expliquez-nous, vous, comment, dans votre pratique de médecin, vous êtes amenée à vous intéresser particulièrement à la dimension du féminin. Et à travers quelles pratiques concrètes ça vous a... C'est vous intéresser à l'énergie chinoise, etc.,
oui,
la médecine chinoise.
Je reviens à mon ami. C'est que en Han, l'idéogramme chinois, je me suis beaucoup intéressée aux idéogrammes chinois. Han, c'est la paix. Et qu'est-ce qu'on a dans l'idéogramme paix? Eh bien, on a une femme sous le toit. La femme, elle préserve la famille sous le toit. C'est très beau, ça. De même qu'il y a un autre sens dans l'idéogramme. J'ai beaucoup apprécié ça. Je parle très légèrement chinois, mais les idéogrammes me nourrissent. Vous voyez, ce langage métaphorique, on l'utilise régulièrement. Les femmes l'utilisent bien, ça aussi, avec leurs enfants, vous comprenez, pour les structurer, pour en faire des un petit peu moins névrosés que nous, pour leur apprendre à se nourrir, à se caresser, à regarder la nature. On ne la voit plus dans les villes. Bref, il y a un autre idéogramme qui est très beau, qui est le yi. Yi veut dire penser, mais après on va toucher le spirituel. Et quand on pense au yi, à la pensée, allons vers le spirituel, c'est notre regard qui se plonge sur notre cœur.
Et alors, dans la conception chinoise taoïste, l'équilibre du masculin et du féminin est très important. Oui. Ce que vous devez, j'imagine, aussi pratiquer en médecine, c'est souvent un déséquilibre entre ces deux dimensions, ces deux polarités qui créent la maladie ou la disharmonie.
C'est toujours ça, cette dualité qui fait le yin et le yang, le bien, le mal, la lune, le soleil. Bon, c'est tout. On se retrouve dans nos médecines tous les
Absolument.
Deux, chers confrères.
Tout à fait.
Mais si on voit au-delà, il y a le souffle primordial. Et là, on trouve la médecine quantique. On est tous en vibration sur ce un, cette dimension d'amour. Tout le monde en parle, mais c'est simple en fait. Quand on parle de nos enfants handicapés, ils sont là-dedans. Ils sont dans cette innocence, ils sont dans ce souffle d'être avec eux. Ou même quand on accompagne, parce que je fais une médecine générale, des fois j'accompagne des patients en stade terminal, on se retrouve dans ce temps qui n'est plus qu'un, parce qu'on ne peut plus parler de l'avenir quand la personne sait qu'elle va mourir dans les... Vous savez, à Jeanne Garnier, c'est ça, ils partent dans les jours qui suivent. On ne peut pas dire, on va faire quelque chose de votre corps. Il y a un autre langage, Et vous restez en compagnie de cette dame qui est aussi dans des consciences déjà un départ. Et je vous assure, le temps n'est plus le même. Quand je les quitte, je ne sais plus. J'ai un moment à reprendre le métro, à me remettre. Et je crois que c'est ça. De même, la beauté, on en a parlé, j'écoutais vos émissions. François Cheung nous en a largement parlé. La beauté, on dit quand c'est très beau, c'est divin. Voilà. Mais qu'est-ce que la beauté? C'est aussi la bonté, c'est la mère qui nourrit,
C'est l'harmonie.
C'est l'harmonie.
Et là, je fais appel à l'autre médecin indien. Enfin, je ne sais pas si vous avez le titre de médecin. En tout cas, vous pratiquez la médecine. C'est toujours, pour vous, l'important, c'est aussi de recréer de l'harmonie entre, j'imagine, à l'intérieur du corps, mais aussi entre le corps et l'esprit.
Tout à fait. La santé, ce n'est rien d'autre que l'harmonie. C'est l'équilibre, pour nous, on va dire, l'équilibre des cinq éléments. Mais l'équilibre aussi de corps et l'esprit, cinq corps, c'est-à-dire on n'est pas qu'une seule identité physique. Il y a le côté émotionnel, il y a le côté mental, il y a le côté psychique et intérieur. Alors toute cette harmonie entre différentes couches de l'être humain, entre différentes parties du cosmos, entre différents éléments, c'est cela qui va nous donner vraiment la santé. Mais la santé, ce n'est pas simplement... absence de maladie. Pour moi, santé, c'est vraiment la joie de vivre, l'épanouissement de l'être, la lumière de l'être. Par exemple, quand on voit les petits-enfants, il y a une belle lumière dans leurs yeux. Alors, quand on devient adulte, qu'est-ce qui nous arrive? Comme si cette lumière qui disparaît. Si cette lumière qui disparaît, veut dire qu'il y a quelque chose qui nous manque. Et pourtant, j'ai vu dans mon expérience personnelle, très souvent, avec l'âge, ou surtout chez des, entre guillemets, les saints ou les sages, quand vous les découvrez, quand vous les voyez, là, vous allez retrouver cette lumière dans leurs yeux. Vous allez retrouver aussi, par leur présence même, une certaine joie de vivre.
Tout à fait, on parlait des Chinois là, tout à l'heure, et c'est vrai que Chuang Tzu nous dit le modèle du sage, c'est pas le vieillard, c'est l'enfant.
Exactement.
Parce qu'il a cette spontanéité, cette joie de vivre qui est tout à fait naturelle. Et puis après, ben, on est pris par les soucis de la vie. Mmh. Mais j'aime beaucoup ce que vous dites sur cette harmonie, effectivement, de tous ces corps qui nous constituent. Et là, je trouve que l'Inde, pour ça, a une connaissance de l'être humain beaucoup plus globale et profonde, parce qu'elle regarde pas simplement l'aspect matériel des choses, elle connaît tous ces corps énergétiques subtils que nous avons et qui permet d'aller beaucoup plus loin. Et très souvent, on se dit, mais la plupart des personnes qui sont malades, ça ne sert à rien de leur donner simplement un médicament qui va soigner un symptôme purement physique, alors que c'est un déséquilibre énergétique en elle, entre voilà, l'esprit, le mental, un conflit intérieur. Donc vous, c'est de cette manière-là que vous soignez les gens.
C'est-à-dire, j'essaie d'aider chacun pour se soigner soi-même. Parce que dans chacun d'entre nous, on a cette énergie de se soigner. Il y a l'autre aspect que je voulais indiquer quand vous avez parlé des enfants. Il y a cette énergie féminine aussi. Parce que ça, c'est une énergie qui est une énergie douce, énergie calme, énergie forte aussi, et qui est aussi une énergie de guérison. Et chacun d'entre nous, on a cette énergie. Et cette énergie qui a les racines spirituelles fondamentalement. Et c'est ce côté spirituel qui nous donne l'épanouissement véritable. Et pour moi, cette sorte de touche féminin et qui nous amène vers une dimension qui nous fait dépasser les trois dimensions, qui nous fait dépasser aussi le côté quotidien, le côté terre-à-terre, et qui nous met dans l'état de rêve, dans l'état de au-delà quelque part. C'est ce que peut-être dans votre émission vous appelez
le ciel.
Non, mais c'est cette verticalité.
La verticalité, tout à fait.
Et pour vous, c'est la dimension féminine de l'être qui nous l'apporte.
Exactement, voilà, tout à fait.
Et alors, vous avez parlé justement du fait que la santé, c'est pas, ça ne veut pas dire justement avoir
l'absence
un corps,
maladie,
un beau corps d'athlète américain, etc. Mais que c'est un état intérieur. Et je crois, Béatrice Bonin, que c'est ce que vous explorez au quotidien auprès d'enfants handicapés et que vous voyez en eux vous apprenez d'eux une voie de la santé intérieure, mais qui ne se voit pas évidemment en apparence, puisqu'on peut penser qu'un enfant handicapé est loin de la santé physique.
En fait, je pense qu'avec les expériences de plusieurs années au quotidien auprès de ces enfants, ils m'ont appris beaucoup. Et comme a dit l'un de nos conférenciers, le docteur Masaru Emoto, les enfants sont nos sensei, ce sont nos grands maîtres. En l'occurrence, ces enfants m'ont appris que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, peut-être ont-ils fait le choix de cette destinée, peut-être ont-ils fait le choix de sacrifier leur corps pour justement être pour nous une meilleure connexion avec les racines du ciel, en l'occurrence. Et nous avons maintenant la chance d'avoir un outil qui nous permet de le démontrer. Il s'agit d'une technique qui s'appelle l'AIC, qui veut dire Accompanied Inner Communication, qui en fait est ce qu'on appelle en France la communication profonde accompagnée. C'est une technique qui permet aux enfants handicapés et aux personnes étant en situation de non-verbal de pouvoir exprimer ce qu'ils vivent et ce qu'ils veulent en fait communiquer. Comme disait un grand chercheur en matière d'enfance handicapée, l'enfant handicapé est avant tout un enfant, mais qui a simplement son intelligence dans une cage dorée. Cette technique de l'AIC nous permet justement de réunir des textes qu'ils nous transmettent. Et nous découvrons ainsi que ces enfants ont non seulement fait le choix d'être là, mais ils sont là aussi pour nous transmettre ce qu'ils arrivent à percevoir grâce à leur grande spiritualité. Ça donne des textes absolument fabuleux, parfois même très perturbants, mais qui effectivement sont là pour nous dire que l'essentiel n'est peut-être pas forcément cette vie terrestre et notre corps et notre état physique, c'est peut-être la réalisation de notre, ce qu'on appelle notre soi avec un grand S, de notre être et notre connexion avec d'autres plans plus spirituels et plus divins. Yedit nefesh avarachamon meshachav decha il retzonecha meshachav decha la 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 la.
Vous êtes dans l'émission Les Racines du Ciel. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Béatrice Bonin, Kiraen Vias et Martine de Pongadet pour parler des puissances spirituelles du féminin.
Et la musique que vous venez d'écouter, c'est Michele qui va chanter aux prochaines rencontres de Biarritz. Michele qui est elle-même une puissance du féminin incarnée, je dirais. Je ne peux pas dire que c'est une chanteuse, c'est une présence. C'est une présence qui chante. C'est une voix, et comme vous l'avez entendu, et comme j'espère tous ceux qui participeront à cette rencontre à Biarritz pourront l'entendre, c'est vraiment une musique qui déploie toutes ses puissances. Alors, je ne sais pas si c'est du féminin ou de l'âme ou de quoi, mais ça vient des profondeurs de la terre, ça la traverse et ça monte directement justement vers nos cieux, en tout cas, sinon le ciel.
Alors, Martine de Pongadet, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de votre pratique du Qigong. Vous appelez le Qigong féminin. Expliquez-nous un peu concrètement de quoi il s'agit et pourquoi donc vous l'associez essentiellement à un art féminin.
Le Qigong, c'est connaître son corps, puisque déjà, on ne sait pas où est son bras des fois, vous voyez, je veux dire. Donc, réinvestir son corps. Prendre confiance en son corps, parce que des fois il a été malmené. On le voit dans les embûches sexuelles de précoces, les dégâts que ça fait. Il y a toujours une partie qui peut être absente. On peut se mettre en absence de son corps. On peut être en absence tout le temps. On peut dire toujours oui quand on veut dire non. Vous voyez, mais déjà, le conscientiser dans son corps. Et bien sûr, le souffle guérison. Mais le souffle, on en a parlé tout à l'heure, du souffle.
Et ce sont des gestes lents ?
Bien sûr, lents. C'est le souffle qui amène le geste. En général, en inspirant, on monte, on peut monter les bras, en soufflant, on descend. On en parlait avec les enfants adorent le Qigong. Eux, ils sont tout de suite dedans. Eux, ils sont tout de suite, je vais mettre ta main, je vais te guérir, le bobo. Il n'y a pas de questionnement. Mais pourquoi ça marche ? Mais qu'est-ce que ça fait notre bon côté rationnel ? Non, les enfants vont, ils font l'oiseau. Et tout de suite, ils respirent mieux, vous comprenez ? Ça dégage la cage thoracique avec la respiration. Et puis nous, les femmes, j'ai un mot, un message merveilleux pour toutes les femmes ménopausées, c'est qu'après, nous ne sommes plus fécondes à la terre, mais nous sommes fécondes au ciel. Donc notre intuition qui déjà, le côté féminin, c'est déjà l'intuition, hein, eh bien elle se développe encore mieux. Donc un message à toutes mesdames qui rentrent dans le club des ménopausées, nous sommes encore plus intuitives et guérisseuses, et toujours guérisseuses.
Alors puisque vous parlez de fécondité, j'ai beaucoup réfléchi aux textes que je pourrais apporter et qui réunissent en fait les différentes sensibilités que vous représentez. Et puis j'ai repris mon éternel Victor Hugo. Les auditeurs commencent à se lasser peut-être de mon amour immodéré pour Victor Hugo. Mais enfin, j'ai quand même eu très envie de vous citer un poème que j'avais lu dans mon adolescence et qui m'avait impressionnée. C'est un poème qui est extrait de La Légende des siècles. Et alors, je ne vais pas vous le lire en entier parce que c'est très très long. La Légende des siècles, c'est quand même... Il n'y a pas des petits poèmes dans La Légende des siècles. Je vais vous lire juste la fin, en fait, de ce poème qui raconte... Enfin, qui s'appelle quand même Le Sacre de la Femme. Et qui raconte qu'au départ, quand Adam et Ève ont été créés, toute la nature s'affairait autour d'Adam, se prosternait devant lui, voilà, la lune, le soleil, les étoiles. Bref, il y avait une concentration... sur Adam, et puis un beau jour, ça change. Mais ce jour-là, ses yeux innombrables qu'entr'ouvre l'infini sous les plis du voile qui le couvre, s'attachaient sur l'épouse, et non pas sur l'époux, comme si dans ce jour religieux et doux, béni parmi les jours et parmi les aurores, au nid ailé perdu sous les branches sonores, aux nuages, aux ruisseaux, aux frissonnants essaims, aux bêtes, aux cailloux, à tous ces êtres saints que de mots ténébreux la terre aujourd'hui nomme, la femme eût apparu plus auguste que l'homme. Pourquoi ce choix ? Pourquoi cet attendrissement immense du profond et divin firmament ? Pourquoi tout l'univers penché sur une tête ? Pourquoi l'aube donnant à la femme une fête ? Pourquoi ces chants ? Pourquoi ces palpitations des flots dans plus de joie et dans plus de rayons ? Pourquoi partout l'ivresse et la hâte d'éclore et les antres heureux de s'ouvrir à l'aurore, et plus d'encens sur terre et plus de flammes aux cieux ? Le beau couple, innocent, songeait, silencieux. Cependant, la tendresse inexprimable et douce de l'astre, du vallon, du lac, du brin de mousse, tressaillait plus profonde à chaque instant autour d'Ève, que saluait du haut des cieux le jour. Le regard qui sortait des choses et des êtres, des flots bénis, des bois sacrés, des arbres prêtres, se fixait, plus pensif de moment en moment, sur cette femme au front vénérable et charmant. Un long rayon d'amour lui venait des abîmes, de l'ombre, de l'azur, des profondeurs, des cimes, de la fleur, de l'oiseau chantant, du roc muet. Et pâle, Ève sentit que son flanc remuait.
Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. You're the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel, you make me feel.
sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Béatrice Bonin, Kiran Vias et Martine de Pongadet pour parler des puissances spirituelles du féminin. Aurélie Anvar, vous venez de nous lire un magnifique texte de Victor Hugo qui montre beaucoup de choses, mais entre autres, il y a toujours chez Victor Hugo cet amour immense de la nature. Et là, absolument, il montre bien le lien entre la femme, le féminin et la nature.
Oui, et qui est sur l'idée de fécondité, absolument.
Mais ça, on le retrouve dans toutes les religions et les, au-delà des religions, de toutes les fondements même de nos religions. Que l'on parte de Gaïa dans le panthéon des Grecs primitifs, que l'on parle d'Isis dans le panthéon égyptien, que l'on parle de femmes bison blanc chez les chamans Lakota, je crois. Et si on rejoint Shatki, au panthéon indien, on a toujours ce principe de connexion entre la femme première féconde dans le monde et sa connexion avec tout ce qui est le monde. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'harmonie du tout, qui me fait penser d'ailleurs à une phrase d'Einstein, qui est un de mes... Je suis, moi, fan d'Einstein plus que de Victor Hugo, pardonnez-moi, qui disait « Mon Dieu est celui de Spinoza, celui qui révèle que l'harmonie est en tout. » Et c'est vrai que là, je pense qu'on maintient la boucle du féminin sacré. Le féminin sacré est premier, il est en tout et connecté à tout.
Je voulais, pour sortir un peu de la question du religieux, mais venir à une question de la santé qui m'intéresse beaucoup aussi. Vous m'avez offert très gentiment, Kiran Vias, le grand guide de l'Ayurveda, les bienfaits de la cure ayurvédique aux éditions Marabout. Alors je vais le lire avec beaucoup d'intérêt. Et je vois qu'il y a tout un chapitre sur la diététique. Et j'aurais aimé qu'on dise un mot de cette dimension de l'alimentation par rapport justement aux principes masculins et féminins. Je suis sûr qu'il y a un lien.
Absolument. C'est-à-dire chaque aliment à des différentes choses. Tout d'abord, il y a le côté, on va dire, positif, ou le côté masculin, et le côté réceptif, ou le côté féminin, dans chaque plat ou dans chaque chose que nous pouvons manger. Ça pourrait aussi se traduire par le chaud et le froid. Par exemple, la banane, c'est quelque chose de froid. Ou piment ou quelque chose, ça sera chaud. C'est-à-dire chaque Et il y a cinq sortes, disons, des cinq éléments. Il y a élément terre, élément eau, élément feu, air. Ça va aussi être présent dans chaque aliment. Il y a aussi les six sortes de goûts, salé, sucré, acide. Alors, tout cela est lié avec la santé. Quelquefois, simplement, selon l'Ayurveda, la médecine indienne, si on fait un équilibre des couleurs dans une autre assiette, ça sera parfait pour notre santé, même si on ne connaît aucune règle de diététique. Ou bien, simplement, si on fait un équilibre de goût, un peu de salé, un peu de sucré, un peu d'acide, qui soit harmonieux, et à ce moment-là aussi, ça sera bien pour notre santé.
C'est intuitif, quoi.
C'est intuitif, et cette intuition, ça fonctionne. Sinon, bien sûr, il faut étudier d'une façon très profonde. Mais quand vous me posez la question, la femme, ou la mère, ou la guérisseuse qui est dans chaque foyer, et surtout c'est la maman. Par exemple, je me souviens, étant petit, la maman va préparer des plats, mais en servant à chacun entre nous, chaque enfant, elle savait que telle personne avait plus besoin de telle chose, alors peut-être qu'il y aura un peu plus de cumin dans une assiette. Ça signifie que cette personne a besoin de se calmer. Ou l'autre qui a besoin d'être un peu plus dynamique, il y aura un peu plus de moutarde, de graines de moutarde. Comme ça, certaines petites épices pourraient changer même la nature même de la chose. Et aussi la façon de servir et la présence féminine pendant le repas est considérée quelque chose d'exceptionnellement important dans la nourriture ayurvédique, dans les repas indiens.
Et ce que vous dites pour la cuisine, moi je l'ai expérimenté par rapport au massage. Je me suis rendu compte que ça n'a rien à voir de se faire masser qu'un kiné qui masse de manière mécanique et avec une personne, et bien souvent des femmes d'ailleurs, notamment en Inde, qui s'implique totalement avec une présence, une qualité de présence. Absolument. Et du coup, on en ressort transformé. Ça n'a plus rien à voir avec simplement remettre une vertèbre.
C'est ma passion, les massages indiens ou de massages ayurvédiques. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai introduit les massages ici en Occident, et surtout en France. Et dans le domaine des massages, ce que j'ai observé, et même par exemple le docteur Frédéric Le Boyer, il avait parlé du massage des bébés Chantala, mais les massages sont nécessaires pour moi dès le début, c'est-à-dire dès la petite enfance, je dirais dès la période prénatale, ou j'irai encore plus loin, même avant la conception, il faut que la femme soit massée, qu'elle soit préparée pour une belle conception, une belle période prénatale.
Oui, c'est intéressant, ce qu'on dit toujours, il faut que la maman masse son bébé, mais il faut qu'elle-même, elle soit massée.
Exactement, exactement. Il y a une définition de l'énergie féminine dans la langue sanskrite qui dit qu'il faut que cette présence devait contenir toutes sortes d'aspects. Premier aspect, c'est la mère. Deuxième aspect, c'est celle qui, avec qui on pourrait parler, à celle à qui on pourrait tout confier, et puis aussi comme une courtisane, mais courtisane dans le bon sens de terminologie, c'est-à-dire qui touche votre cœur et qui prend votre cœur dans la totalité. Et c'est cela qui va vous amener vers l'union divine ou l'union avec l'absolu, c'est-à-dire l'expérience de l'amour.
Mais pour revenir à ce que vous disiez sur la nourriture, c'est vrai que ceux qui reçoivent la nourriture sont évidemment littéralement nourris dans leur âme et dans leur corps quand c'est donné par amour. Mais j'ai lu une étude, alors très américaine hein, aussi, qui montre que chez les femmes, le fait de faire à manger, d'avoir des gens, d'inviter, de faire des grandes tablées et de faire cet acte d'amour et de donner à manger, ça leur produit les mêmes adrénalines que pour les hommes d'aller regarder un match de foot. C'est-à-dire que ça leur donne un plaisir vraiment profond. Et ça produit des hormones du plaisir chez la femme, de donner à manger, de nourrir en somme. C'est vrai.
Et en même temps, il y a un paradoxe, mais une chose que je n'ai jamais très bien compris. C'est alors qu'on est tous d'accord pour dire que les femmes ont un lien avec la nourriture qui est très fort. Pourquoi est-ce que les chefs étoilés sont toujours des hommes, ou quasiment toujours des hommes? Alors ça, enfin, à 99%, est-ce que c'est culturel?
Le dernier grand chef élu meilleur chef au monde est une charmante jeune femme que j'ai le plaisir de compter parmi mes amis, qui est Elena Arzak. C'est une toute jeune fille, toute menue quand on la voit, mais en fait, c'est un très, très grand chef. Quand vous interrogez tous ces chefs, qu'est-ce qu'ils vous disent? J'ai appris la cuisine avec ma grand-mère.
Oui, mais moi, j'ai une autre explication. Je pense que Frédéric a raison, la majorité sont des hommes, mais il y a une raison très simple, c'est que les grands chefs, ils font la cuisine pour gagner leur vie. Alors que les femmes, elles ne deviennent pas des grands chefs parce que c'est un don. Et d'ailleurs, ils l'ont appris de leur mère. Et après, ils en font un commerce, je dirais. Ils en font un business. C'est une façon très masculine d'évaluer la chose que de dire ah, « C'est bizarre, pourquoi on se sait que les grands chefs ?» Parce que les grands chefs, c'est leur métier. Les femmes, c'est le don d'elles-mêmes quand elles font à manger.
Oh, si je puis me permettre, je mettrais un petit... Je dirais une petite temporisation sur ceci. Je pense que beaucoup de grands chefs font leur grande cuisine avant tout par amour de la gastronomie. Ils aiment aussi créer, ils aiment offrir à leurs clients leur création. Je ne pense pas que ce soit uniquement pour des raisons mercantiles. Je pense que j'oserais dire qu'ils ont réalisé leur part de féminin en eux, en offrant justement tout ce que leur grand-mère et mère leur ont inculqué en matière de dons culinaires. Simplement, c'est vrai que le métier de chef est un métier extrêmement difficile, qui nécessite un grand sens, je dirais presque militaire, de la gestion, des laboratoires, enfin de leur cuisine. Mais je pense que ce sont plutôt des personnes, enfin j'ai la chance d'en connaître plusieurs, qui ont réalisé cet équilibre entre leur féminin et leur masculin. Leur masculin est nécessaire pour manager leur brigade, et leur féminin se retrouve en fait dans la générosité et leur créativité. activité.
Oui, ce n'était pas pour dire qu'il ne le faisait pas avec générosité.
Non, je l'entends.
Ce que j'entends par là, c'est que c'est quand même intéressant.
Alors moi,
ce que j'entends, c'est que votre évaluation et ça,
oui, Lélie,
les grands chefs sont des hommes.
Bah, je pense que l'histoire du commerce, je ne vous suis pas du tout. Par contre, je pense que chez l'homme, il y a une dimension de reconnaissance sociale. L'homme a plus besoin que la femme d'être reconnu par les autres dans ce qu'il fait. Et donc, les grands chefs, ils ont... c'est peut-être majoritairement masculin, parce qu'ils ont besoin, à travers leur amour de la cuisine, d'avoir une reconnaissance des autres. Et du coup, ils deviennent des professionnels de la création. Il faut inventer quelque chose que personne d'autre n'a fait, etc. Donc, je pense que c'est plutôt l'aspect masculin de la reconnaissance sociale qui explique peut-être qu'il y a beaucoup plus de grands chefs masculins.
Ouais, et qui explique que ce soit pour vous un critère d'évaluation.
Je ne dis pas que c'est un critère d'évaluation, oui, je constate.
Oui, je sais.
Il y a l'ego
mais
aussi.
C'est quoi
oui, c'est ce que j'appelle.
Oui, il y a toujours
la reconnaissance sociale, c'est une part d'ego.
Voilà.
Les
voilà,
femmes ont moins
ça.
Besoin qu'on applaudisse leur dîner. Il suffit qu'elles nous voient heureux.
On aime bien quand on dit que c'est bon.
Je fais partie de ce sondage américain qui aime tant et tant cuisiner et recevoir. Et c'est vrai que j'attends quand j'ai besoin d'être rassurée quant à la qualité du repas.
Un ange passe.
Moi, je suis restée sans voix parce que je me suis projetée dans ce que vous dites. Et c'est vrai que... il ne faut pas non plus croire que les femmes sont totalement dénuées d'ego, sauf que leur ego s'exprime peut-être un peu plus discrètement.
Subtilement.
Plus subtilement.
Discrètement, voilà. Pas toujours.
Voilà,
mais...
plus subtilement. C'est-à-dire que c'est l'impression qu'on peut avoir parfois en allant vite que, bon, les hommes, c'est l'ego dominant et tout ça, mais je dirais que chez les femmes, c'est plus subtil, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas à faire le même travail de lutte contre...
Oui, mais pour en revenir au sujet initial, je pense que justement, le travail sur notre spiritualité devrait pouvoir nous aider à faire quelque peu taire notre ego, ou du moins l'excès d'ego, en tout cas je l'espère.
Ça, c'est universel.
Oui. Et ça, Paul, alors, par contre, je peux vous dire que chez les enfants handicapés, s'il y a quelque chose de merveilleux, c'est qu'eux ont fait une vraie croix sur leur ego. Et ça, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant de voir, pour en revenir à ce que disait Kiran, la lumière qui transparaît de leur être, de leur aura, de leur regard. Et là, vous avez beau chercher, il n'y a plus l'once du moindre ego. Ils ont tout donné pour être là et pour nous transmettre quelque chose de bien plus supérieur.
Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, pour revenir au féminin, qu'une des qualités les plus fortes du féminin, d'expression du féminin, que ce soit chez la femme ou chez l'homme, c'est justement la présence, c'est-à-dire de ne pas chercher à être simplement dans la communication verbale ou active, etc., mais d'être dans une qualité d'être, de présence, qui irradie, je dirais, par simplement cette qualité d'attention et de présence à soi-même, au monde, aux autres. Est-ce que c'est ça, c'est pas plus typiquement féminin que masculin ?
Je pense qu'effectivement, d'après ce que j'observe, notamment quand je vois tous les congressistes qui viennent au symposium, faut reconnaître une majorité de femmes, il y a effectivement cette capacité de connexion qui semble plus développée. Mais je dis bien « semble » parce que finalement, nous avons de plus en plus d'hommes qui suivent ces femmes dans ce symposium, beaucoup de médecins. Et il y a effectivement cette connexion qui se crée. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on a invité cette année James Redfield. Parce que je dirais, en l'occurrence, ça se lit dans son dernier roman, La douzième prophétie. Nous sommes amenés, et je pense que le monde ira mieux à partir du moment où il y a justement cette reconnexion du féminin masculin au sein de chaque être, mais les hommes vis-à-vis des femmes aussi.
Martine de Pongadet, que vous inspire tout ça? Parce que vous êtes très en retrait, on prend tous un peu spontanément la parole, et là je vous sens plus en retrait.
Présence en chinois, on dit shede, il y a des jolis poèmes en chinois qui disent présence pour des parts de l'âme. Et présence, c'est mettre son soleil en mouvement. C'est pas l'immobilité, parce que totalement yin, on meurt, on se noie, c'est le yin. Totalement yang, on prend un courant électrique, 100 000 volts, on meurt aussi. C'est mettre en mouvement. C'est aimer, vous voyez, c'est toujours je m'aime et je me respecte en premier. Et mettre son mouvement, c'est aussi cet élan vital, vous voyez. Comme vous disiez gentiment, c'est pas enseigner le Qigong, c'est transmettre. Parce que j'ai passé un âge, je veux transmettre à toutes mes petites jeunes, j'ai plein de petites jeunes femmes médecins. Médecins généralistes, c'est très dur en ce moment. C'est que des protocoles, c'est dur, hein. On a un concours très dur, c'est encore un concours pour choisir sa spécialité ou rester un pauvre petit médecin généraliste. C'est pas assez dit, ça. Et donc, leur faut de l'élan vital. Il faut transmettre. Donc, leur transmettre le Qigong pour aider les patients. Leur transmettre l'acupuncture. Leur transmettre vos talents diététiques. Transmettre à cette jeunesse encore l'art de se soigner, puisqu'on est tous nos guérisseurs. On a notre pouvoir guérisseur.
Absolument. Alors nous allons, comme je l'ai dit au départ, terminer cette émission avec la chronique mensuelle de Marie Dalquet. Bonjour Marie.
Bonjour.
Et qui va évidemment nous parler de ce symposium.
Oui, alors nous sommes particulièrement ravis de faire cette émission car l'année dernière nous en avions parlé dans l'agenda et de nombreuses personnes sont venues au symposium suite à l'émission. Et donc on a souhaité consacrer une véritable émission entière cette année à ce symposium et à ce qui s'en dit. Voilà, et donc c'est pour rappeler que ce symposium international sur les recherches d'avant-garde et synergie, et le mot d'avant-garde est très important car il s'agit véritablement d'une réflexion qui est ouverte au grand public, elle s'adresse véritablement à tous, elle se met à la disposition de tous. Et ce sont des conférences, des ateliers pendant 3 jours sur le bien-être, sur la médecine, sur les thérapies, sur les modes de vie et essentiellement dans une réflexion d'avant-garde. Ça se passe donc à Biarritz, c'est du 21, 22, 23 novembre et cette année elle fait donc la part belle aux femmes. Alors, on s'est arrêté sur différents événements qu'il y aura dans ce symposium. Et Béatrice Bonin, vous avez justement un invité de marque cette année qui s'appelle James Redfield et qui est justement l'auteur américain de La prophétie des anges. Vous êtes parti
des andes. Mais c'est l'absus révélateur parce que quelque part, oui, c'est aussi La prophétie des anges.
Voilà, et vous êtes particulièrement heureux de le recevoir cette année.
Oui, très heureux et très honoré parce que, comme a dit plusieurs personnes qui nous ont appelés à propos de sa venue, qui est exceptionnelle et exclusive, c'est la première fois qu'il vient en France, sans doute la dernière, parce qu'il est assez... ermite. Beaucoup de personnes m'ont dit « cet homme a changé ma vie ». Et c'est vrai que les romans de la prophétie des Andes, Le secret de Shambhala et dernièrement La douzième prophétie sont des textes qui étaient à l'époque d'avant-garde, mais qui aujourd'hui rejoignent complètement l'aspiration des gens à une nouvelle spiritualité et à, je dirais, pour en revenir à notre sujet cœur, à une reconnexion avec les plans supérieurs, mais aussi avec notre propre yin et yang, avec notre propre masculin et féminin, avec notre propre être spirituel.
Et Kyriane Vias, vous allez aussi faire une conférence, donc ce sera le samedi 22 novembre à 9h sur la femme, Shakti, la devise, le symbole de l'énergie. Mais vous proposez aussi des ateliers culinaires sur la cuisine ayurvédique, les massages et un troisième, je crois.
Oui.
Yoga des yeux.
Yoga des yeux.
Voilà.
Yoga des yeux pour mieux voir le monde extérieur avec les yeux. Yoga des yeux aussi pour avoir une vision intérieure, une vision globale. Les yeux au-delà des yeux. Un troisième œil qui pourrait nous donner cette vision. Mais tout à l'heure, je vais parler de Shakti, c'est-à-dire cette énergie qui est énergie féminine, pas Devi, mais Devi. Devi veut dire la déesse, le côté divin, cette divinité qui est dans chaque déesse. Et c'est vrai qu'en Inde, c'est le seul pays où l'homme ou le dieu n'est pas tout-puissant. Il y a la déesse et surtout même un dieu tout seul n'est même pas accepté. Il faut qu'il soit accompagné chaque fois que Rama avec Sita ou Krishna avec son épouse ou même Shankara avec Parvati et des choses comme ça. C'est-à-dire les deux féminins et masculins sont ensemble. Et pour moi, ramener d'un côté ce côté divin, côté spirituel, aussi, la nourriture, c'est quelque chose de très tangente. Et en même temps, C'est cela aussi qui nous prend beaucoup de temps quotidiennement, mais cela nous donne une expérience intime et spirituelle. Alors moi, j'ai envie d'expliquer pendant cet atelier ce côté physique, ce côté terre-à-terre, mais en même temps ce côté émotionnel de joie et ce côté spirituel de la diététique ayurvédique.
Chanque va y avoir du monde à votre atelier.
Voilà. Alors, et nous avons aussi donc Martine de Pont-Galet. Vous allez faire une conférence, ce sera le vendredi 21 novembre à 16h, et ce sera sur le Qigong féminin des 5 saisons, et vous proposerez un atelier qui sera le Qigong et transgénérationnel. Alors, qu'est-ce que cet atelier ?
D'abord, je remercie Béatrice, parce que vraiment, c'est un bel événement. Je suis très contente d'ouvrir cet atelier. C'est des mouvements du sacrum. Le sacrum, c'est le sacré également, c'est le périnée. C'est là où peut-être il y a des mémoires cachées, comme disent les Chinois. Et par des mouvements, des respirations, on va amener en mouvement, on va décristalliser quelques fractures. Quelquefois, on ne bouge pas le bassin, tout simplement parce qu'on a peur d'être touché, parce qu'on a peur d'être touché, mais ça peut pas que ça. Et tout doucement, on va le bercer, et avec des mouvements, des respirations, des sons, il va y avoir des choses qui se passent, accompagnées de dessins, pour décristalliser sur des mémoires de la tante, de la grand-tante, de l'arrière-grand-mère.
D'accord.
Ce qui s'est passé, pour être vraiment dans cet espace de vie, de joie, on revient toujours dans l'harmonie, on en a parlé.
Et voilà, et qu'on est dans l'harmonie, on est dans la joie.
Et alors justement, une conférence joyeuse aussi, celle de Marie-Thérèse Piroli-Lefrène, qui sera sur « Osez votre féminin ». On vous l'avait conseillé la conférence l'année dernière sur les médecines ancestrales de Marie-Thérèse Piroli. Et vous avez été nombreux à y aller de notre part. Donc voilà, cette année, ce sera le samedi 22 novembre à 9h. Alors, tout ça se passe à l'espace Bellevue, place Bellevue à Biarritz. Vous avez deux possibilités pour réserver ou pour y aller. Donc le site symposium-international.com ou un téléphone 06 14 89 27 38. Et je rappelle que les bénéfices du symposium vont à des associations pour l'enfance handicapée et particulièrement cette année à l'éducation des jeunes filles défavorisées.
Merci Marie, merci à chacun d'entre vous, chacune d'entre vous d'être venu. On a passé un bon moment ensemble. Je pense qu'on l'a fait partager à nos auditeurs. Merci.
Merci à vous.
Merci. Merci.
C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. La semaine prochaine, nous emprunterons des chemins de traverse avec Lydie Dattas. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Très bon dimanche à tous.